Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI en ce mercredi si pluvieux, si automnal sur Paris. Et nous allons vous parler bien de choses plus drôles comme celle du Real Madrid. Le Real toujours au sommet de l'Europe. Les Merengues ont conservé la Super Coupe d'Europe face aux Red Devils de Manchester hier soir. À la tête de l'équipe espagnole, Zinedine Zidane a remporté son 5e titre international en 19 mois. Mieux que son ancien professeur dans le métier, José Mourinho. Les Merengues vont-ils donc dominer le football européen cette saison encore? Nous le demanderons notamment à Pierre Chaperon. Bonjour Pierre.
Bonjour Annie,
il est passé devant le studio, on s'est dit notre correspondant à Madrid, c'est pas possible, il faut qu'il vienne. Todo bien?
Todo bien.
Il oublie son espagnol
oui,
pendant les vacances.
D'être là.
Nous parlerons aussi de ce nouvel aiglon dans le nid de l'OGC Nice, un aiglon qui a déjà des heures de vol. Wesley Sneijder a débarqué sur la promenade des Anglais. Après Balotelli, Belanda, Jallé, Ben Arfa, Nice se spécialiserait-il dans le recyclage réussi des has-been? C'est une question que nous nous poserons. Et puis il y a aussi un invité spécial dans notre studio aujourd'hui, notre maître à tous, ancien journaliste sportif de la radio, de la télé, Daniel Potra. Bonjour,
ravi d'être là.
Nous aussi, vous êtes un grand spécialiste du vélo, hein, ce sont 50 ans de Tour de France, avez-vous raconté récemment dans un livre, mais nous, on parlera de foot avec vous, parce que vous avez des liens très particuliers avec le foot africain, n'est-ce pas ?
Oui, depuis que j'ai quitté Eurosport, il y a une quinzaine d'années, le foot africain était l'une de mes passions.
Eh bien voilà, alors notamment le foot maracana, dans lequel Daniel Potra se recycle, lui aussi, désormais. Il y a aussi autour de la table, alors évidemment, on voulait vous faire plaisir à tous, le Real à la gagner et Rémi Ngono est là. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie et bonjour à tous les Madrilènes.
On vous avait invité avant le résultat du match, mais peut-être qu'on n'en doutait pas. Jean-Philippe Bouchard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Sorti de ses vacances, Jean-Philippe Bouchard des éditions Solar. Et puis il y a aussi Shérif Guémour, lui de SoFoot. Bonjour Shérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Il a pris un grain tout à l'heure sur le chemin de la radio.
Tout va bien, tout va bien.
Shérif, il a déjà séché. Radio Foot, c'est parti.
Intentaba el desmarque imposible para Karim Benzema, no le pudo llegar la pelota, encerrado al Manchester United, aprieta el Real Madrid que se va creciendo con los minutos, Casemiro le pega, gol. Ojo Isco, la pared fantástica para matar el partido, qué golazo. Gol, 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 gol. Gol.
Here's Danny Carvajal to stand his ground. Now Rashford, chance for Matic to hit one. A save and then Lukaku made sure this time. And Manchester United's big money summer signing.
Et voilà un résumé de ce match avec une année qui commence donc par une victoire du Real Madrid. Une de plus, 73e coupe dans les armoires du musée de cette équipe hors du commun. La victoire semblait plutôt logique hier sur la pelouse de Skopje, le réveil des Mancuniens et de leur nouvelle recrue, Romelu Lukaku, fut bien trop tardif. Malgré une préparation qui laissait à désirer du côté du Real, et bien Karim Benzema le rappelle, le Real répond toujours présent au grand rendez-vous.
On est ici pour gagner à chaque fois, prendre des trophées. On sait que cette année, ça va être difficile parce que toutes les équipes nous attendent. Donc voilà, on a fait un bon match. On a fait une préparation qui était difficile, on a beaucoup travaillé. Donc les matchs amicaux étaient difficiles, on n'a pas gagné. Mais voilà, les matchs officiels, on est là, on est toujours présent et ça fait plaisir.
Rémi, ça vous a fait plaisir à vous aussi, j'imagine.
Beaucoup de plaisir dans la mesure où d'abord le style de jeu y était et de surcroît, j'avais déjà dit aux gens, faut pas toujours se baser sur les championnats de vacances que les autres remportent. Le Real, lui, il ne joue pas les coupes du village et bien sûr aussi les coupes de vacances. Donc, il fallait bien s'y attendre, surtout que la démonstration a été totale, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan tactique, ça a été une domination tous azimuts. Et d'ailleurs, n'eût été des Réa, je crois que le Real aurait pu marquer minimum 3-4 buts. Donc, on peut quand même se dire que, au regard du contenu, c'est Real qui était magnifique. Et d'ailleurs, Mourinho a été agacé de voir que le Real a réussi. 46 passes successivement pendant que Lukaku et tous les autres étaient
en train de
se balader et se demander si la balle était portée disparue.
Sûrement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Chérif, de cette équipe qui rentrait de vacances finalement, mais qui...
Non, mais moi j'attendais que Rémi nous fasse encore l'éloge de Mourinho, le grand entraîneur. Tu vois, moi, on a confié le Real Madrid à Mourinho. T'as vu ce qu'il en a fait? Tu le confies à Zidane, on voit la différence. Non, bon, on s'attendait quand même. Le Real partait favori.
Oui.
Je suis époustouflé par la mécanique. Chaque joueur est à sa place. Il y a rien. Zidane n'a pas révolutionné le jeu du Real. Moi, je vois juste le milieu. Chacun est à sa place. C'est la mécanique qui se met en place. Et avec 2-0, comme l'a dit Rémi, ils auraient pu forcer l'addition. Et ensuite, bon, il y a une réaction sur la fin. C'est normal parce que bon, ils se sont
un peu installés dans leur 2-0.
Sauf que voilà, ça fait encore un titre de plus pour le club.
Depuis
Zidane.
Voilà, depuis le Milan AC, hein, ils sont les premiers à conserver cette Super Coupe d'Europe et surtout aussi avoir conservé d'ailleurs le trophée européen. Jean-Philippe.
C'est un troisième en 4 ans quand même.
Oui.
C'est quand même assez impressionnant. Et bon, tout le monde est à sa place. Il faut dire qu'aucun joueur n'a changé. Si ce n'est que Ronaldo était pas titulaire hier, mais sinon voilà, tout on a le 11 type quasiment.
Oui, c'est vrai qu'on a une mécanique.
Avec un peut-être même un supplément, c'est-à-dire qu'on
mais Benitez, il les avait hein, ces jours-là.
Ouais,
après s'il a pas su s'en servir,
Modric revient apparemment beaucoup plus en forme que l'année dernière où il a eu quelques soucis. Donc voilà, on a l'impression que le Real est encore plus fort alors qu'il n'a pas changé. C'est ça qui est impressionnant.
Pierre, vous qui les voyez toujours dans votre jardin, hein, pratiquement, et tous les jours, en tout cas au moins tous les 15 jours quand ils jouent au stade Bernabeu, est-ce que vous les trouvez vous aussi déjà en forme pour attaquer une saison qui commence par cette super coupe d'Espagne en match aller-retour et tout de suite après
dimanche
ça sera la Liga qui viennent
prochain.
De remporter.
Oui, en fait c'est le principe de la préparation de Pintus, le préparateur physique italien qui est vraiment l'âme physique quelque part du Real Madrid, qui prépare les joueurs. Alors on les a sentis très fatigués pendant la Champions Cup, là c'est ces matchs amicaux qui ne servent pas à grand chose à part renflouer les caisses. On les a sentis un peu empruntés, mais c'est parce qu'ils ont un gros travail physique en début de saison qui va les amener à novembre-décembre, qui doit être le climax, comme on dit en anglais, donc le
deuxième
top.
Partie de saison. C'est la Gloria.
Et après ils vont refaire une préparation physique très dure en janvier-février pour être prêts pour le money time, c'est-à-dire avril-mai pour gagner encore une fois et la Liga et la Ligue des Champions et peut-être la Coupe du Roi, parce que c'est le seul trophée, et il faut s'en rendre compte, c'est le seul trophée qui manque à Zidane maintenant.
Oui, ça lui manque
qui est presque anecdotique, mais quand on est le Real Madrid, voir le Barça gagner au Calderón contre Alavés, bah ça énerve un peu, donc on veut gagner la Coupe du Roi. Ouais. C'est pas l'objectif numéro un. L'objectif numéro un, ça restera toujours la Liga et la Ligue des Champions, mais il y a la Coupe du Roi, toujours tout gagné.
Jean-Philippe, vous dites oui, c'est les mêmes, sauf Cristiano qui effectivement revenait de vacances, était un peu en méforme, il est rentré pendant le match. Mais ce qu'on voit, c'est aussi, il y a l'intégration de joueurs plus jeunes, parce que Asensio et Lucas Vázquez sont rentrés et on les a remarqués, ces joueurs.
C'est les choix de Zidane, de la même façon qu'on a laissé partir.
Des choix qu'il avait d'ailleurs assumés quasi à son arrivée.
Voilà.
Dès les premiers matchs, il avait testé des joueurs plus jeunes. Donc on voit qu'il
prépare déjà.
Voilà, il prépare déjà pour dans plusieurs années, ce qui dans le football est quelque chose quand même très aléatoire, parce que l'urgence est permanente. Maintenant, il a une chance. Il l'a choisi, il a attendu son heure, son moment. Il faut se souvenir que pendant longtemps, Zidane, il est allé au centre d'économie du sport de Limoges faire un master. Enfin bon, il a attendu
il a
le bon
temps.
Moment.
Hein,
il a pour prendre en main finalement l'équipe. La meilleure et peut-être même au moment où elle est la plus forte. Donc évidemment.
Ah non, Bouchard, à ce niveau, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que Zidane prend l'équipe au moment où vraiment le Real être très très mal. C'est-à-dire que avec
Benitez, mais le groupe, ils sont déjà, ils sont, attends, ils étaient deuxième ou troisième de la Liga, il y avait pareil.
Oui, mais il y avait une crise, il faut quand même se le dire. Ouais, il y avait une crise,
crise de vestiaire.
Il y avait une crise de vestiaire et il y avait une crise des jeux, dans la mesure où vous vous rappelez d'ailleurs que un journaliste chinois avait été renvoyé lors du match de Ligue des Champions du Real Madrid parce qu'il s'est mis à somnoler à l'antenne. Donc il dormait parce que le jeu du Real vous donnait tout simplement la maladie du sommeil. Donc voilà Zinedine Zidane qui vient. Par exemple, regarde les statistiques. Sur les 66 derniers matchs, tu te rends compte que le gars marque chaque fois et que ça fait seulement combien? Ça fait 183 buts, 2,77 buts par match. Donc quand vous regardez ça, il a pris une équipe qui ne fonctionnait pas, mais aujourd'hui, c'est une équipe qui fonctionne complètement bien.
Ben, on est d'accord.
On va l'écouter justement, Zinedine Zidane, parce que 19 mois à la tête du club, ce sont deux Ligues des Champions, deux Supercoupes d'Europe, une Liga, une Coupe du Monde des clubs. Et puis, alors, c'est 66 matchs avec au moins un but, comme vous le soulignez, Rémi. Il y a aussi 40 matchs consécutifs sans défaite. Insatiable Zizou.
Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons essayé de faire ce que nous souhaitons. Nous savons que ce sera chaque jour un peu plus difficile, car nous allons faire face à de très bons adversaires tout au long de la saison, et ce sera le cas dès dimanche. Nous voulons essayer de bien préparer nos matchs et de tout faire parfaitement, comme on tente toujours de le faire. Nous avons pour ambition d'essayer de toujours faire mieux. Hier soir, comparé à nos trois ou quatre derniers matchs, nous avons été bien meilleurs. Nous avons été dans le match dès la première minute et cela a continué jusqu'à la fin. Je pense que c'était un match spectaculaire.
Est-ce que le style Zizou est installé finalement? Parce que vous vous souvenez, Chérif, on se disait, oui, bon, Zidane, il a les bons hommes au bon moment et il a gagné la première Ligue des Champions au bout de 6 mois. Est-ce que là, on peut se dire quand même qu'il y a un style de jeu qui s'installe?
Pas encore.
Non, mais très exigeant,
il a quand même gagné tout et on se pose encore la question.
On parle de style. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il a une méthode, qu'il contrôle le vestiaire, qu'il a une idée de jeu, je suis d'accord. Mais de style,
et qu'il a une idée très précise de ce qu'il faut faire pendant un match.
Pas encore. Quand il arrive, quand il a arrêté d'un groupe, une fois de plus, il a fait mieux que Benitez, mais le groupe existait déjà. Il avait quand même gagné la Ligue des Champions en 2014. Donc, c'est quand même une équipe à la base. À la base, il a une très bonne équipe. On peut pas encore parler de style. Une patte. Oui, une méthode, oui, et un ascendant sur le groupe, oui.
Attends.
Un style, pas encore.
Il a un style. Première des choses, qui dit, il a trouvé un groupe. Je devrais te dire que même la décima n'eût été le but de Ramos à la 93e minute. Benitez ratait ça. D'autant plus que tu as vu comment Ancelotti, d'ailleurs, ratait ça parce que d'ailleurs il faut voir que avec Ancelotti,
non,
on a
je,
quand même
été battu. Je ne pas avec Dessy, Rémi.
Maintenant, on regarde le style, comme tu es en train de dire là. Pratiquement, c'est le taureau. C'est-à-dire que il y a une conservation beaucoup au milieu du terrain. C'était
Elle
le style.
C'est
Barça qui le faisait.
Je te renvoie à la Super Coupe d'Espagne, la première.
Attends. Tu es en train de me dire.
Quand c'est arrivé après 2014,
bon, Rémi, attendez.
Il y avait déjà cette faculté à jouer long, à jouer court et à conserver le ballon. Un style, c'est plus que ça. Un style, c'est quelque chose qui fait école, que tout le monde imite, mais, et qui est difficilement reproduisable.
Mon cher. Je vais te dire une chose.
Vite.
On a vu, que ce soit avec les Ben Schuster, que ce soit avec Capello, que ce soit avec tout le monde qui est passé, que ce soit Ancelotti, j'ai dit bien que le style Zidane, c'est la synthèse de l'efficacité, la dextérité et la beauté du jeu. Ça, c'est le style Zinedine Zidane, avec un jeu offensif, un jeu direct et un jeu à la fois de conservation. Ça, c'est un style. Alors que le style, par exemple, du Barça, c'était juste un style où on tournait beaucoup en rond, où on faisait le tiki-taka. Donc aujourd'hui, quand tu me parles du style, Zinedine Zidane, je te fais comprendre que, quels que soient les entraîneurs qui sont passés au Real, il n'y a pas eu un entraîneur qui a réussi ce que Zinedine Zidane vient de réussir.
Ancelotti a gagné la Ligue des Champions.
Pas deux fois.
Il a été.
La base du jeu était là et le groupe est là. Alors quand on changera l'équipe à 80%, Quand non, on la verra dans d'autres compétitions, club, ouais, déjà, voilà. Dire, là, on verra, mais là, pas encore.
C'est pas pour ça, mais c'est lui qui a peur des exceptions, Rémi. Qui est en prêt.
Ok, Daniel Potra, vous voyez, hein, ça fait discuter. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un style Zinedine Zidane?
Ben, je ne sais pas s'il y a un style Zinedine Zidane. Je ne sais pas si Zidane a apporté quelque chose au Real, mais moi, je constate que le Real a beaucoup apporté à Zidane, parce qu'entre l'entraîneur tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'exprime, et le joueur tel qu'il était, il y a vraiment une grosse différence. Et ça, c'est chouette, mais je crois que c'est peut-être lui qui en est quand même le premier responsable.
Oui, bien sûr.
Et le premier bénéficiaire, Jean-Philippe.
Non, puis il faut quand même souvenir que Zidane était, enfin les débuts d'entraîneur de Zidane, c'est quand même adjoint d'Ancelotti. Il s'occupait. Des attaquants. Donc il a quand même. Appris aux côtés d'Ancelotti, il s'est formé, il a pris le temps, voilà, il n'est pas...
Mais vous ne parlez pas du style du Barça, là.
Le Barça a un style, il avait un style. Mais là, oui.
Guardiola,
là, oui. Voilà. Mm-hmm.
Mais ce qui me dérange un peu, c'est que vous me citez toujours le reste, sauf que je constate qu'avant Zinedine Zidane, le Real Madrid change 20 entraîneurs en 20 ans, et sous Pérez, c'est 11 entraîneurs. Et quand Zinedine Zidane arrive, vous êtes en train de me citer tout le reste, sauf que je constate qu'il est le premier entraîneur. C'est-à-dire que même au niveau du Real, lorsque Di Stefano arrive, il a déjà 15 ans d'entraîneur. Lorsque Johan Cruyff arrive, Johan Cruyff est passé par l'Ajax qui n'était plus une grande équipe. Sauf que Zinedine Zidane est le premier qui prenne une grande équipe et qui réussisse cash tout de suite avec toujours des trophées. Vous voulez quoi?
Là, on est d'accord.
On est d'accord. Là, c'est un fait.
Le palmarès est extraordinaire.
Une question pour vous, Pierre Chaperon. Gareth Bale, on l'a vu hier, beaucoup joué, beaucoup se démener, puisque de toute façon, il n'était pas là, Cristiano Ronaldo, et beaucoup de choses reposaient sur lui. Est-ce qu'il va rester dans ce club?
Oui.
On a vu que Mourinho lui vient un petit appel du pied avant le match.
Hein. En fait, on est dans la période où tous les joueurs peuvent encore changer de club, donc oui, il peut très bien partir comme il peut très bien rester. Mais là, il va rester, Bale. Le problème, c'est qu'il est un peu écarté du club, pas du club, mais du groupe, parce qu'il n'était pas là forcément pour la finale de la Ligue des Champions. Gareth Bale, il était blessé, ou en tout cas il était en méforme, et Isco a vraiment pris sa place, quoi, quelque part, numériquement parlant, pas sur le terrain, pas sur ce côté qu'il occupe, Gareth Bale, mais Isco a tellement un poids dans le jeu du Real que ça va être très dur de changer le système de jeu, d'incorporer Isco dans le système de jeu ou d'incorporer Gareth Bale dans le nouveau système de jeu. Ça va être vraiment une des premières questions de la saison pour Zinedine Zidane.
Oh, il aura besoin de tout le monde de toute façon.
Oui,
saison du Real.
Et puis, ça tourne énormément au Real. L'année dernière, je crois qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à plus de 1000 minutes de jouer, parce que on n'a pas forcément la même équipe qui va jouer contre Valence et contre Alabès, et donc Zidane, il a besoin de tous ses joueurs. C'est pour ça qu'il a fait revenir Valero, qu'il a acheté Dani Ceballos, qui est un futur très grand milieu de terrain espagnol, et qu'il a acheté Théo Hernandez aussi.
Shérif Isco, on l'a beaucoup vu hier, il marque le deuxième but, on l'avait beaucoup vu lors de la finale, on le voit maintenant beaucoup plus qu'avant, sur le terrain, mais il impressionne,
c'est la
révélation.
Alors là, c'est vraiment un mérite qu'on peut attribuer à Zinedine Zidane, c'est de l'avoir incorporé au fur et à mesure. D'abord, il l'a gardé parce qu'il a été sollicité. Enfin, là-dessus, il s'est pas trompé en laissant partir Ressé. Morata, c'est autre chose.
Rames surtout. Rames qui était plus dans son attitude, sur la même place que Isco. Et Isco, il a réussi à manger, entre guillemets, c'est une image.
Mais progressivement.
À manger Rames.
Progressivement.
C'est pareil. Rames, il a pas non plus un niveau. Il a pas réussi à se mettre au diapason du Real Madrid.
Alors, Isco, ça va être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une mi-temps, des matchs entiers. Et Asensio, c'est pareil. On a commencé à l'entrevoir. Et Vasquez. Et tout ça, c'est vraiment ce que je appelle les joueurs satellites, les jeunes loups qui arrivent. Les satellites, ils sont incorporés comme il le faut. Et ils ne s'incorporent pas parfaitement au système de jeu.
Rémi, vous a plu, Isco?
Beaucoup.
Homme du match, comme vous avez signalé. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause pour continuer, évidemment, à parler de football. Et on retrouvera Daniel Potra et sa passion du football africain.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Et oui, seconde partie de Radio Foot International, toujours sur RFI, toujours avec nos invités, avec Chérif Guémour, avec Jean-Philippe Bouchard, Rémi Ngono aux anges après ce 73e titre de son Real Madrid. Il y a aussi Philippe Zigraf qui nous a rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Chaise musicale avec Pierre Chaperon qui repart presque vers l'Espagne déjà. Et puis nous avons Daniel Potra qui est avec nous et que vous entendrez dans quelques instants. Pour l'instant, restons encore sur ce match, parce qu'on va parler quelques secondes de Manchester. L'adversaire des joueurs du Real Madrid, ils ont un peu failli, surtout José Mourinho a failli dans sa tactique, lui qui a cependant misé dans ce match sur l'homme recruté à prix d'or à l'intersaison, à savoir Romeo Lukaku, et il est satisfait.
Lukaku n'a pas eu la tâche facile face à une équipe qui a maîtrisé le ballon. Il a tenté beaucoup de choses, raté un but tout fait, c'est vrai, mais il a tout de même réussi à en mettre un. Il s'est bien battu face à deux défenseurs axiaux qui n'ont cessé de le marquer. Je suis satisfait, sa condition physique est bonne et son adaptation au groupe fantastique.
An amazing group.
Alors, Romelu Lukaku, qui n'est pas un Roméo sur le terrain.
Ben moi, j'ai bien connu Roger, son père, oui, qui était international de RDC, qui était un grand joueur d'Anderlecht, qui était un super joueur.
Et vous le suiviez déjà quand il était quand il jouait dans le championnat belge, je me souviens, quand vous nous aviez signalé, Philippe Zigraf, qu'il passait à Chelsea, parce que ça a été sa porte d'entrée en Angleterre.
Oui, il a éclaté Anderlecht, il a commencé très très tôt, très jeune professionnel, à 15 ans et demi, 16 ans, Lukaku.
Jean-Philippe Bouchard, Romelu Lukaku, hier, effectivement, c'était l'homme sur lequel comptait certainement l'équipe de Manchester. Il a marqué son premier but en match officiel. Hein. C'est lui qui, un temps, donne de l'espoir, en tout cas aux supporters de Manchester, mais peut-être un peu seul.
C'est un match en demi-teinte quand même pour lui, parce que bon, son équipe était dominée de toute façon, mais méritait pas de l'emporter. Mais c'est vrai que lui, il a été était extrêmement attendu, extrêmement exposé, et on a bien entendu
à cause du prix, voilà, évidemment de son transfert,
et qu'on le veuille ou non, même si les joueurs sont pas responsables de du prix qu'on va mettre sur pour leur transfert, forcément ça fait peser une pression sur leurs épaules. Donc on entend bien le discours de Mourinho qui protège son joueur comme il protège son groupe. Traditionnellement, c'est toujours la même posture, il les défend même jusque dans la défaite. Maintenant, sur le match, son match à lui, il est quand même pas. Il sort pas un gros match quand même hier.
Rémi, vous l'avez trouvé comment, Lukaku, pour son premier match, premier
c'est
match
pas
officiel.
Un match à 73 millions.
Premier match officiel et surtout première finale.
Faudrait-il aussi rappeler que même en venant d'Arsenal, on attendait beaucoup en venant aussi de Monaco, on attendait de Falcao, et on a cru que beaucoup allait se passer avec Lukaku, mais bon, Lukaku n'est pas Zlatan, parce que Zlatan,
tout comme Martial Drogba, qui vient de Monaco,
Zlatan, tout comme Drogba, c'est des joueurs qui non seulement savent remiser, mais avaient une puissance de projection. Tel n'est pas son cas. On l'a vu un peu trop lourd et très maladroit. Ce qui n'est pas possible, parce que quand on dit qu'on est attaquant de pointe, on doit marquer des deux pieds. On le voit avec, que ce soit Ronaldo ou bien d'autres gens. Je ne vais pas quand même comparer Lukaku à Ronaldo. Mais dire qu'il est unijambiste parce qu'il ne doit marquer que du gauche, c'est très très grave. Parce que ce qu'il loupe hier, c'est vraiment moi qui ne joue pas terriblement au football. Je crois que j'aurais fait le petit exploit de mettre ça dedans. Mais que de chercher d'aller cueillir les mangues en plein stade comme il l'a fait, c'est quand même assez grave. Donc, je me dis aujourd'hui que vraiment, ce que Lukaku a fait, ça risque malheureusement être, comme je voulais dire, Van Persie. C'est-à-dire que ça peut être aussi un chaos, ça peut être un raté, parce que je ne le vois pas remiser et prendre de la profondeur.
Chérif, une dernière petite question au sujet de Manchester United. Il y a un autre joueur qui a coûté très cher dans cette équipe. Il s'agit de Paul Pogba. Comment vous l'avez trouvé hier sur le terrain? On parle beaucoup des joueurs chers actuellement.
Toujours un peu perdu tactiquement. On ne sait pas s'il est numéro 8, numéro 10. Et l'erreur à pas faire avec Pogba, et c'est un peu ce qu'on a cru voir hier, c'est de le laisser livrer à lui-même. faire à peu près ce qu'il veut. Il a besoin d'être très très cadré. C'est pas le cas. Mais au cinéma, c'est pareil. Hein. Si les acteurs sont pas cadrés, ils n'en font qu'à leur tête.
Ou alors c'est des monstres.
On y reviendra de toute façon sur la compétitivité de cette équipe de Manchester United, puisque demain on évoquera la Premier League, le championnat en Angleterre, commençant au cours du week-end. Allez, on se dirige vers la Côte d'Azur, où Nice, le club du gym, comme on dit aussi, l'OGC, a terminé la saison dernière sur le podium. C'était troisième de la Ligue 1. L'année précédente, je vous le rappelle, ils avaient terminé quatrième. Une équipe qui a conservé cette fois-ci son entraîneur, à savoir le Suisse Lucien Favre. Alors, elle a perdu certains des cadres de l'an dernier, Belanda, Pereira, Essérig, Dalbert, Essérig qui est en partance. Il y a toujours Seri, Pléa, Cyprien, Balotelli, mais l'effectif s'est étoffé. Une recrue de renom vient d'arriver, le néerlandais Wesley Sneijder, qui avait marqué, vous vous en souvenez, de son empreinte à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec cette équipe des Pays-Bas finaliste. D'ailleurs, Sneijder, c'est 131 sélections avec les Pays-Bas. Écoute, on le sait merveiller du style de Nice.
Je suis ici pour aider l'équipe et montrer mes qualités. J'ai un bon feeling, surtout après avoir vu les joueurs à l'entraînement hier. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une très bonne formation. Ça joue au football, donc je suis vraiment heureux d'être ici et de commencer la saison.
On parlait tout à l'heure de style de jeu. Un style de jeu intéressant, en tout cas celui de Nice l'est. Apparemment, c'est ce qui a séduit. C'est une bonne carte de visite pour attirer les joueurs, finalement, ce style de Nice, Shérif.
Oui, de toute façon, quand on vient à Nice, on est sûr de pas s'ennuyer. En général, quand on fait venir ce qu'on appelle les anciennes gloires, elles sont sûres de jouer aussi. On l'a vu avec Dante, on l'a vu avec Ben Arfa, on le voit avec Sneijder. La seule question que je me pose, moi, c'est au niveau du physique. Est-ce que Sneijder va pouvoir s'imposer dans une Ligue 1 qui est très très dure physiquement? Il a 33 ans.
4 saisons passées à Galatasaray, c'est-à-dire en championnat turc.
Après, c'est très bien que Nice ait pris une sorte de numéro 10, ce meneur de jeu, c'est ce qu'il manquait. On en avait parlé la semaine dernière quand on a vu les deux matchs contre l'Ajax. C'est bien qu'il sache tenir le ballon, il sait le faire. Il va se retrouver dans un style qui est pas si éloigné du style hollandais, du style de l'Ajax, c'est-à-dire un jeu de passe, un jeu qui va de l'avant. Il sait jouer dans les petits espaces, il sait jouer il a aussi du jeu long. Le problème, une fois de plus, c'est son âge. La difficulté de la Ligue 1,
33 ans.
Ouais,
Ibrahimovic a quitté Paris, il avait 35 ans.
C'est pas le même poste.
Pas le même style, c'est pas le même poste.
Pas le même jour retour.
Mais à 33 ans, on n'est pas grabataire. Hein, donc,
non. Mais a priori, moi, je dis bonne pioche. Mais je demande à voir sur la durée de toute la saison.
Rémi, c'est l'âge idéal pour commencer à jouer au Maracana.
Peut-être, ouais, bien sûr.
Eh ben, on lui en parlera, vous lui en parlerez. Rémi, c'est une bonne pioche, Sneijder, pour Nice, selon vous?
Oui, parce que Nice est ce que l'on appelle le purgatoire avant de retourner en enfer. Parce que, en réalité, je n'ai jamais vu un joueur partir aussi de Nice pour aller réussir quelque part. C'est-à-dire que c'est toujours ceux qui échouent quelque part qui viennent réussir à Nice, et quand ils repartent échoués. Exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me parle de l'entraîneur qui est très très bon, Lucien Favre. Il faut quand même se dire qu'il quitte Mönchengladbach après 5 défaites en 5 journées. Eh bien, il arrive à Nice, il devient super bien. Eh bien, il faut quand même se dire que Dante, il échoue à Mönchengladbach, il échoue au Bayern, il échoue à Wolfsburg. Il arrive à Nice, il devient le patron de la défense. Il faut quand même se dire que Balotelli a fait le tour du monde des échecs.
Sauf que
laisse-moi finir un peu.
Oui,
donc
beaucoup,
à une certaine période, moi je dis que bon, c'est une bonne pioche, sauf que cela malheureusement ne parvient pas à donner à Nice une certaine dimension internationale. Comme le dit un proverbe africain, la lampe qui brille dans une maison ne parvient pas à éclairer une mosquée.
Il y a quand même des faits, c'est que l'an dernier Nice a produit un jeu
chatoyant.
Très très sympa,
très
à voir.
Intéressant.
Et vraiment la Côte d'Azur s'est régalée, j'en parlais encore tout à l'heure, et puis ils sont en barrage de la Ligue des Champions. C'était pas du tout écrit en début de saison. Souvenons-nous les doutes qu'on avait émis ici quant à l'avenue de Balotelli, à savoir s'il allait réussir, s'il allait s'intégrer. Alors, c'est pas la recrue du siècle peut-être, mais nombreux sont les entraîneurs qui n'ont pas su gérer Balotelli. Là, finalement, Balotelli, il fait une saison plus qu'honorable. Il reste à Nice, a priori, parce qu'il espère jouer la Coupe du Monde et il pense qu'à Nice, il a peu inscrire les 15 buts qui vont lui permettre d'intégrer l'Italie pour le mondial. Donc c'est quand même une proposition qui est pas dans l'histoire récente de Nice. Hein. Jusqu'à présent, c'était pas...
Justement, Jean-Philippe, on voit qu'il se spécialise un peu dans les... Alors, je disais méchamment tout à l'heure les has-beens, mais en tout cas, les joueurs qui ont été à un moment et puis qui se sont perdus, on pense à Balotelli, on pense aussi à Snyder qui s'est fait un peu oublier là-bas. Est-ce que c'est devenu une marque de Nice de recycler?
Ben, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que là, on voit sur le recrutement, ils prennent Snyder, mais ils prennent aussi Saint-Maximin, qui est un joueur extrêmement prometteur.
Et très jeune.
Ils prennent des cadres. Quand on se souvient qu'en PSG recrute Ibrahimovic, il est libre à ce moment-là. Il n'y a pas de transfert et finalement il a beaucoup à
apporté. Ah non, il n'est pas libre. Il est recruté à 20 millions d'euros.
Non, je crois qu'il a une prime à la signature de 15 millions d'euros.
20 millions.
Mais en tout cas, l'argent vient pour le joueur en prime à la signature, pas en coût de transfert. Et c'est finalement, c'est pas cher. Par rapport à ce que
c'est une politique de complément.
Assumé.
Puis c'est une politique de complément. On n'en prend qu'un par saison, on n'en prend pas quatre.
Il s'accumuler dans l'équipe aussi.
Ouais, mais ils restent pas longtemps, ils restent un an, ils font leurs preuves, ensuite ils s'en vont. Mais le gros de l'équipe.
Ils s'en vont où? Tu dis un?
Bah, je sais pas, Ben Arfa est parti, on va pas tous les faire.
Hein? Et Arfa quoi?
Mais est-ce que la vocation...
Ils ont fait une saison et ça a marché. Balotelli sur une saison, ça a marché.
Et Younes Belhanda, ça a marché.
Ça a marché, donc voilà. Après, pour le reste, c'est une équipe jeune, le gros de l'équipe, il est là et il continue de progresser. Nice est un club qui continue de progresser.
Et qui forme des joueurs aussi.
Qui optimise le talent des joueurs qui sont là.
Exactement. En tout cas, on suivra Nice puisque Nice, la semaine prochaine, jouera contre Naples, ce fameux barrage pour la Ligue des Champions. Et on verra ce qui se passe dans cette équipe.
Nouvelle ouverture de Dominique Rocheteau vers N'Gom. N'Gom qui arrive tout seul, qui dribble le gardien marseillais, il va marquer bien sûr. Eh bien non, il fait ce qui était le plus difficile, réussir à taper sur le poteau. Sur le poteau, ce qui fait donc toujours...
Daniel Potra, c'est vous ça.
C'était hier.
Oh, je crois que c'était le 1er janvier 1961.
C'est vrai?
Non, c'est un peu plus tard.
Il réussit à taper sur le poteau.
C'est difficile. Alors Daniel Potra, je le dis à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, mais en tout cas dans ce studio, on vous connaît tous, parce que vous, pour les passionnés de sport, vous avez été journaliste sportif, passé par France Inter dans les années 60. Après, vous avez fait beaucoup de télévision. Vous avez commenté donc très longtemps le Tour de France. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Mémoire du Tour de France. Vous avez aussi dirigé Eurosport, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Vous avez dirigé une émission de sport sur TF1 à un certain moment. Mais plus rarement, vous avez fait des incursions dans le foot, c'est ça ?
Oui, parce que quand j'ai commencé à la radio, Georges Briquet, qui était le patron, le créateur du radio reportage, m'avait dit « Si vous voulez devenir une petite vedette, il faut commenter le Tour de France et le football. » Dans le Tour de France, j'étais au milieu des coureurs, sur une moto, sur deux roues, exactement comme ce que je faisais deux ou trois ans avant, quand je faisais moi-même du vélo, mais j'étais pas assez bon pour devenir un champion, donc je suis devenu un journaliste.
On a souvent fait ce chemin-là, dans les autres sports aussi.
Et donc, que là, j'étais dans l'action, alors que dans la tribune, pour commenter un match de football, eh bien, parfois, j'avais tendance à m'endormir aussi.
En tout cas, vous étiez à un moment important de l'histoire du football français. Écoutons.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce pas ?
Moi, je connaissais l'ancien, évidemment, mais là, de la façon dont il est conçu, je crois qu'il en aura une meilleure ambiance qu'avant encore.
Madame, est-ce que vous êtes assise confortablement ?
Très bien. Très bien.
Combien avez-vous payé votre place ?
40 francs.
C'est cher.
C'est cher, ça dépend du spectacle. Hein. Si par exemple, je paierais facilement 40 francs pour voir un match de Coupe d'Europe avec Marseille et autres, enfin la meilleure équipe française, mais pour voir des équipes françaises qui se défoncent pas sur le terrain, ça vaut pas la peine.
Alors, Daniel,
je regrette pas d'être venu.
Le nouveau parc, OM Bastia.
Alors non, c'était France-URSS.
Ah oui, France-URSS,
le match d'inauguration.
Voilà, le 25 mai 1972, dans le nouveau Parc des Princes, puisque le Parc des Princes a suivi différentes évolutions. Et là, c'était celui
qui... Et moi, j'étais un peu triste parce qu'on avait supprimé la piste cycliste aussi.
Le vélodrome.
Et le Tour de France ne pouvait plus se terminer là.
C'est les temps qui changeaient. En tout cas, justement d'ailleurs, ce Parc des Princes, maintenant, c'est le siège du Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé ces derniers temps de Neymar, du volume énorme de son transfert, hein, c'est 222 millions d'euros. C'est vraiment plus du tout le football que vous connaissiez à cette époque.
Ben, moi, j'en reste à l'équipe du Racing Club de Paris qui avait gagné la Coupe de France en 1949 contre le LOSC, 5-2. C'était le football champagne. Tout le jeu était porté vers l'attaque. On s'en fichait d'encaisser des buts, mais il fallait en marquer un de plus l'adversaire. Le tourbillon du Racing avec Quenol, Vaste, Morel, Tessier et Gabet en attaque. Voilà. Et puis, au milieu de terrain, il y avait Grisetti et Le Duc. Et puis il y avait un demi-centre aussi qui était Lamy. Puis il y avait les deux arrières qui étaient Arins et Grillon. Et le gardien de but, le français volant.
Vignal,
qui avait été surnommé The Flying Frenchman par les gens d'Arsenal, puisque le 11 novembre, il y avait tous les ans le traditionnel match Racing contre Arsenal, auquel j'assistais toujours parce que c'était vraiment le match de l'année au Parc des Princes.
Daniel Potra, ça veut dire que le contexte était différent, mais la manière de jouer aussi.
Ça a évolué. Après, j'ai fait mon service militaire au bataillon de Joinville et c'est Georges Boulogne qui entraînait le bataillon de Joinville. Et Georges Boulogne, à ce moment-là, quand je lui disais, mais on marque de moins en moins de buts et tout ça, pourquoi le football est en train de devenir, c'est plus ce tourbillon, ce football champagne. Et il m'a dit, c'est sa conception et c'est lui qui a théorisé le football à partir de ces moments-là. Il dit non, l'essentiel dans le football, c'est de d'abord récupérer le ballon et ensuite éventuellement on va marquer des buts. Donc vous voyez, comme ça on est passé de 5 attaquants à combien il y en a aujourd'hui?
Un.
Ou la moitié d'un.
Alors Daniel Potra, parlez-nous de votre passion pour le foot africain. Alors vous avez été celui qui a acquis des droits de la CAN quand vous étiez sur Eurosport, oui. Mais vous avez aussi agi au Burkina Faso.
Alors bon, on va remonter aux années 90, ou plutôt le 22 mai 1991, à 19h30, j'ai compté 5, 4, 3, 2, 1, 0, et j'ai lancé dans un studio improvisé, dans le couloir de la rue Cognac-Jay, à Paris, Eurosport. Et l'un de mes premiers contrats, même le premier que j'ai signé, c'est avec Jean-Claude Darmon, qui détenait les droits de la CAN. Et la CAN n'était pas retransmise entièrement. Il y avait Canal Plus, il y avait même TF1 qui retransmettait la finale et les demi-finales.
La fameuse finale de 1992 au Sénégal, qui a fait bondir Charles Pasqua à l'époque.
Absolument.
Parce qu'il était invité, il devait passer en direct. Il y a eu prolongation, tir au but. Pasqua n'est jamais passé dans l'émission d'Anne Sinclair. Il est parti furieux en disant « Je n'ai pas pu passer à cause d'un match de Coupe d'Afrique. Je ne remettrai plus les pieds chez vous. » Voilà.
Ouais, puisque ça se passait un dimanche en fin d'après-midi.
Exactement.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai retrouvé avec le football africain ce football champagne qui avait fait ma joie quand je suivais le Racing Club de Paris. Et j'ai acheté à Jean-Claude Darmon, en 1991, pour 10 ans, les droits de la CAN. Et Jean-Claude Darmon, que je revois régulièrement du côté
de Saint-Tropez, ce que vous allez dire,
à Nikki Beach, cette plage que Jacques Chirac appelait Cunu Beach. Quand on reparle de ça, chaque fois Jean-Claude Darmon dit « Toi, tu es le seul qui a réussi à me feinter parce que je lui avais acheté en 91-92 les droits au tarif de 92 alors qu'en 2000, c'était plus le même prix la CAN puisqu'elle avait pris une extension. Mais il faut savoir aussi que en 90-91, il y avait dans le championnat de France, première et deuxième division, une trentaine de joueurs africains, pas plus. Et il n'y en avait pratiquement pas dans les autres championnats européens. Et grâce à Eurosport et à sa couverture sur tout le continent, Eurosport a permis à l'Europe entière de découvrir le football africain. Et à partir de là, les scouts, les chercheurs d'hommes, sont allés un peu partout. Et ils sont allés en particulier aussi à Planète Champion.
À Ouagadougou,
que l'un de mes amis, un industriel parisien, un mécène, Philippe Esry, avait lancé en 97-98. Une œuvre à la fois sportive et humanitaire. Eh bien, ils sont allés là-bas et on avait formé la plus belle école de football de toute l'Afrique, sans esprit mercantile. Et pendant 8 ans, je m'en suis occupé avec Philippe Esry. On a placé 19 joueurs en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. L'argent, je sais pas combien c'était le transfert, l'argent revenait en partie à la famille, en partie à Planète Champion. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Et parmi les derniers joueurs que j'ai fait venir, qu'on a fait venir en Europe, il y a eu Jonathan Pitroipa et puis Alain Traoré. Et j'ai connu Bertrand Traoré quand il avait 8 ans, puisque sa maman, qui en avait 31 à ce moment-là, qui avait eu Alain à l'âge de 15 ans, m'avait dit, voilà, Monsieur Daniel, faites tout pour qu'Alain devienne un champion, ça va transformer ma vie. Et aujourd'hui, je crois qu'Alain Traoré, il doit gagner combien, 100 000 euros par mois, peut-être.
Bah, les frères Traoré ont bien réussi. Et lorsqu'on regarde le groupe du Burkina Faso finaliste de la CAN en 2013 contre le Nigeria,
il y avait 7 ou 8 joueurs
issus de Planète Champion, ouais. Avec Pitroipa qui a été sacré meilleur joueur de la CAN cette
année-là.
Pendant 10
ans, c'était l'ossature de l'équipe.
Au début, vous me contredirez si je me trompe. Il y avait accord entre Planète Champion et le Paris Saint-Germain.
Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Échange
de maillots, échange de...
Oui, mais comme le Paris Saint-Germain changeait souvent de président, aussi le président suivant n'a pas suivi. Je crois que c'est Charles Biétry qui avait pris la décision de faire l'accord.
Oui, l'époque où Claude Leroy était manager du Paris Saint-Germain. Il allait souvent à Ouagadougou pour superviser, pour voir des matchs.
Et pour redire une petite anecdote, quand j'ai présenté Pitroipa à Giroud, puisqu'on avait des accords particuliers, et Daniel Roland venait souvent voir Planète, et Giroud me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette danseuse que tu m'amènes là, avec les cannes qu'il a, ça fera jamais un footballeur.
Oui, ben, résultat, il s'est trompé.
Il y en a qui se trompent parfois comme ça. Daniel Potralard, vous avez relevé un nouveau défi récemment, c'est que vous avez pris ici en France la présidence d'un embryon de fédération, de la fédération de foot Maracana.
Non, c'est pas foot Maracana, c'est le Maracana.
Le
tout
Maracana,
simplement.
Oui.
Le Maracana, alors qu'est-ce que c'est? Le Maracana, d'abord le nom, bah, vous savez d'où ça vient.
On en a parlé déjà à nos auditeurs, on a suivi la CAN, la Coupe l'année dernière.
Effectivement, donc ce sont des jeunes Ivoiriens qui sont allés au Brésil et qui ont vu que dans les favelas, on jouait au foot à 4 contre 4, etc. Il n'y avait pas de gardien de but parce que quand on est 8 ou 10 copains, il y en a pas un qui veut se sacrifier pour garder les buts. C'est pas quand on a envie de jouer au football, on n'est pas gardien de but dans ces circonstances-là. Donc ils jouaient à 4 contre 4 ou 5, puis finalement, quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, ils ont organisé ce match sous la direction de Charlemagne Bleu, qui est l'un des patrons de la police d'Abidjan et qui est un homme extraordinaire qui fait beaucoup pour le développement de ce sport, et ils ont organiser ce sport en jouant à 6 contre 6 sur un terrain de handball avec la marque du handball. Par exemple, pour marquer un but, il faut être dans le demi-cercle, dans la zone qui est devant le but. C'est les buts. Il n'y a pas de gardien de but. Alors, quand ils ont voulu s'affilier à la fédération ivoirienne, comme discipline assimilée, la fédération ivoirienne a pris contact avec la FIFA qui a répondu « Non, il n'y a pas de gardien de but, donc c'est pas du football. » Donc, il y a une fédération internationale de Maracana. Et puis, j'ai découvert ce sport il y a quelques mois en allant à la finale du championnat ivoirien à Yamoussoukro. Et finalement, je me suis rendu compte que le véritable football, c'est quoi ? Jouer au ballon avec les pieds. Eh bien, le véritable football, c'est pas votre football là, dont vous venez de parler pendant une demi-heure, parce que quand vous faites une remise en jeu de la touche, vous prenez non pas une main, mais même les deux mains. Et puis il y a un joueur sur le terrain qui ne joue pratiquement jamais avec ses pieds, mais qui ne fait qu'arrêter le ballon avec ses mains, c'est le gardien de but. Donc le véritable football, le véritable jeu de jouer à la balle avec ses pieds, c'est le Maracana.
Vous le vendez bien.
Ah bon, on aura une rubrique Maracana hebdomadaire dans Radio Foot, pourquoi pas.
Et là voici le secrétaire général Stéphane Cassi, un diplomate de l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui est le secrétaire général de cette association, qui arrive de Rodez, où il est allé lancer le club de Maracana de Rodez, qui est là. Il y en a à Toulouse, il y en a à Nantes, il y en a à Rodez, il y en a au Puy-en-Velay. Il y a même un stade qui s'appelle déjà le Maracana, au Puy-en-Velay. J'ai découvert pendant le Tour de France.
Et dans les équipes en France, ce sont des joueurs africains, en fait, qui sont dans ces équipes, où il y a aussi des Français?
Pour l'instant, on se sert d'une base africaine, mais c'est bien sûr ouvert à tout le monde. Et puis, attendez, je crois qu'il m'avait donné un numéro de téléphone ou un mail.
Oui.
Où est-ce qu'il est, là? dedans.
Mais
voilà, c'est ça.
On
voilà.
le mettra sur, alors, sur la page Facebook.
Vous pouvez appeler au 06 41 20 39 44. 06 41 20 39 44 pour vous inscrire pour le Maracana.
Parce que l'idée, c'est de participer à des tournois avec les équipes africaines.
Non, non, mais l'idée, c'est de développer ce sport en France. D'abord, pas sous forme d'une fédération, parce que la fédération doit avoir l'aval du ministère des Sports. Pour l'instant, on est en train de jeter les bases, de créer des clubs un petit peu partout. On va former ensuite une association française du Maracana, et puis on demandera notre affiliation un jour comme fédération.
Qu'est-ce qui, on dit que dans ce sport, le plus important, c'est de participer aux trois mi-temps, c'est-à-dire sur le terrain et en dehors, parce que c'est une manière de finalement de rester dans un monde amical.
C'est tout à fait les règles de base, c'est CFA. Ça ne veut pas dire championnat de France amateur.
Mais ça n'existe plus depuis cette saison d'ailleurs. Hein.
C'est convivialité, fraternité, amitié. Et dans les règles de ce sport, si un joueur en bouscule un autre, s'il y a un tacle un peu appuyé, s'il y a un joueur qui tombe, eh bien celui qui l'a fait tomber doit aller l'aider à se relever. Sinon, carton jaune, 2 minutes d'exclusion. Vous voyez, c'est comme ça, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. Tout se fait dans un bon esprit. Et alors, ça a démarré, et c'est peut-être par là qu'on va commencer aussi, et j'en finirai là, c'est que à 30 ou 33 ans, les Snyder ou les autres, qui quand ils ne pourront plus jouer au football sur un terrain de 100 mètres de long, sur un terrain de handball, là, on peut encore s'exprimer, puisque ça ne fait qu'une quarantaine de mètres sur 20.
Oui. Bon, ben, on va s'y mettre, les
et
amis.
D'ailleurs,
hein.
On a vu
33 ans, 34 ans, on va tous s'y mettre. Hein.
On a vu des anciens internationaux dans ces équipes. Il y a des anciens internationaux, les seniors, les vétérans, et c'est vrai que tout le monde se retrouve. Le rendez-vous, ce sera d'ailleurs à Bamako, du 16 au 23 octobre prochain. Merci beaucoup, Daniel Vautra, d'être venu nous raconter ce foot africain, selon vous, vu de Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci aussi Rémi, Jean-Philippe, Chérif Guémour. Merci Philippe Zigraf. Hein.
Plaisir.
Et, ainsi que, évidemment, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin et aussi Guillaume Munier. On se dit à demain.